VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 19h30 ETU, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 mai 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Côte d'Ivoire, le chef du protocole de Guillaume Soro convoqué demain dans l'affaire des armes découvertes à son domicile. Au Mali, une école primaire a été saccagée et incendiée hier par des islamistes présumés dans le centre du pays. Al-Shabaab frappe à nouveau au Kenya, 5 policiers tués au lendemain d'une double explosion qui a fait 9 morts. Donald Trump à Bruxelles appelle les pays de l'OTAN à mettre la main à la poche et payer leur dû. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Eric Manirakiza pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le chef du protocole de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, Kone Kamarate Souleymane, dit Soul to Soul, est convoqué demain vendredi 26 mai à 10h à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan Plateau pour être entendu. La convocation portant la signature du capitaine Essé Ekra Frédéric de la section de recherche de cette unité lui a été remise aujourd'hui. Elle fait suite à la récente mutinerie en Côte d'Ivoire au cours de laquelle une supposée cache d'armes a été découverte au domicile de Soul to Soul à Boaké. Par ailleurs, Amnesty International a demandé hier aux autorités ivoiriennes d'ouvrir d'urgence une enquête indépendante après les violences du mois de mai marquées par des mutineries et des manifestations d'anciens rebelles démobilisés qui ont fait 8 morts. Au Mali, l'école fondamentale de Sa a été la cible d'attaques djihadistes. Hier soir, une dizaine d'hommes armés ont incendié des classes, les tables bancs et d'autres matériels. On fait le point avec Mamoudou Boukoum à Mopti.
L'école fondamentale de Sa a été la cible d'attaque ce mercredi après-midi. Une dizaine d'assaillants armés de Kalachnikov ont mis du feu dans les salles de classe, à la direction et au magasin de la cantine scolaire. Ces groupes armés s'insurgent contre l'école occidentale. Après avoir commis leur forfait, les auteurs de cet acte ont demandé à la population de se convertir en l'islam avant de regagner la brousse. Selon des témoins, les forces de l'ordre ont été alertées, mais à présent, ils ne sont pas arrivés sur les lieux. Il y a une semaine, une autre école a été brûlée dans le village de Lambo, à 15 km de Sa, toujours dans le cercle de Yuwaru. Mamoudou Boukouma Mopti pour VOA Afrique.
Des drones tactiques français ont été déployés en Centrafrique comme appui à la mission militaire des Nations Unies, ont annoncé la MINUSCA et l'état-major des armées françaises. Les drones tactiques et pas de combat doivent servir à des missions de renseignement afin de mieux appréhender la menace que font peser certains groupes armés sur les populations civiles et l'intégrité territoriale. Le manque de financement contraint les agences humanitaires à interrompre certains programmes dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par l'insurrection de Boko Haram, ont prévenu jeudi les Nations Unies. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 5,2 millions de personnes auront besoin d'assistance alimentaire dans les 3 États du nord-est du Nigeria jusqu'au mois d'août. Des dizaines de Burkinabés ont été arrêtés ces derniers jours en Guinée pour s'être livrés à l'exploitation artisanale de l'or, une activité interdite par les autorités. Les Burkinabés arrêtés, dont le nombre exact n'a pas été précisé, étaient détenus hier à Sigiri, dans le nord-est, principale zone aurifère du pays. Nouvelle attaque djihadiste au Kenya. 5 policiers ont été tués quand leur véhicule a heurté un engin explosif dans l'est du pays. Il s'agit, Jacques Aristide, du 3e attentat en 2 jours revendiqué par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
Les 5 policiers tués étaient en route pour renforcer l'opération à Liboy, ville frontalière avec la Somalie. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Hier, 8 autres policiers kényans ont péri dans des circonstances similaires dans 2 incidents distincts. Les Chebabs somaliens ont revendiqué ces attaques. Nairobi n'a pas encore réagi, mais la police a mis en garde contre une activité croissante des islamistes. D'après elle, le groupe envoie des agents dans le nord-est du pays pour poser des engins explosifs improvisés sur les routes utilisées par les patrouilles militaires. Depuis son intervention en Somalie pour lutter contre Al-Shabaab, qui est affilié à Al-Qaïda, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment au centre commercial Westgate à Nairobi et à l'université de Garissa.
En Éthiopie, un ancien porte-parole d'un parti d'opposition jugé coupable d'incitation au terrorisme a été condamné jeudi à 6 ans et demi de prison par un tribunal d'Addis Abeba. Yonatan Tesfaye, ancien porte-parole du parti Semayawi, a été reconnu coupable la semaine passée. Les autorités zambiennes vont étudier dans les prochaines semaines le projet de déplacer la capitale de Lusaka vers le district de Ngabwe dans le centre rural du pays afin de désengorger la première ville du pays, a indiqué jeudi Loki Moulousa, le ministre du Plan et du Développement National. Tripoli promet de coopérer de façon intensive et étroite avec les autorités britanniques dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et des dizaines de blessés lundi. On reste en Libye où 2 migrants ont été retrouvés morts jeudi matin sur un canot au large de la Libye. Un navire affrété par Médecins Sans Frontières a secouru plus de 900 migrants, dont beaucoup de femmes et d'enfants. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a renforcé son emprise sur les médias en bloquant plusieurs sites Internet, dont celui de la chaîne Al Jazeera et des sites politiques comme celui des Frères musulmans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La justice américaine a confirmé ce jeudi en appel la suspension du décret anti-immigration du président Donald Trump. C'est un nouveau camouflet pour cette mesure controversée. Nous avons gagné, a tweeté Omar Jatwat, l'avocat des associations qui soutenait que M. Trump avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Le président Donald Trump, lui, a participé à son premier sommet de l'OTAN à Bruxelles. Retour sur les points forts de son discours devant les alliés avec Anastasie Tudiech.
Le président Trump a d'abord demandé une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Manchester. Il a ensuite appelé les pays de l'OTAN à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie. Le président américain a aussi rappelé à l'ordre les pays de l'OTAN qui ne payent pas leurs dûs.
But 23 of the 28 member nations
sur 28 pays membres, 23 ne payent pas ce qu'ils devraient. C'est injuste envers les contribuables américains. Nombreux doivent payer de grosses sommes et ne s'en acquittent pas.
L'OTAN s'est fixé pour objectif un budget défense équivalent à 2% du produit intérieur brut de chaque pays d'ici à 2024, ce que le président américain considère comme le strict minimum. Il a affirmé que ces 8 dernières années, les États-Unis ont dépensé plus pour leur défense que l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Donald Trump participe demain en Italie au sommet du G7.
Le président du Niger, invité au 43e sommet du G7 en Italie, Mahamadou Issoufou, dont le pays est en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel et contre Boko Haram, a donc quitté Niamey ce jeudi à destination de Taormina. Le point avec Morgan Guiriek.
Une 20aine de délégations sont attendues à Taormina. Aux 7 pays les plus riches s'ajoutent les représentants de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, de la Tunisie, du Niger, du Nigeria, du Kenya et de l'Éthiopie. Le sommet sera axé notamment sur la sécurité des citoyens. Depuis 2014, Paris a déployé des drones à Niamey et dispose d'une base à Madama, à 200 km de la Libye. Washington a des bases à Agadez et à Niamey, d'où décollent des drones de surveillance pour soutenir l'opération française Barkhane contre les extrémistes islamistes au Mali et dans les pays voisins. En 2016, l'Allemagne avait annoncé la construction près de Niamey d'une base aérienne d'appui à la mission onusienne au Mali. Sur le terrain, les djihadistes ont annoncé la mise en place d'une nouvelle coalition et multiplient les attaques.
L'Union européenne veut continuer à coopérer avec la Turquie malgré les vives tensions entre Bruxelles et Ankara, notamment sur la question des droits de l'homme, ont affirmé ses dirigeants jeudi après avoir reçu le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la capitale européenne. Mercredi, M. Erdogan a une nouvelle fois exhorté l'Union européenne à prendre une décision sur la question de l'adhésion de la Turquie, demandant que son pays ne soit pas traité comme un mendiant aux portes de l'Europe. Par ailleurs, la chancelière chancelière allemande Angela Merkel a exigé jeudi du président turc Recep Tayyip Erdogan la libération du correspondant du journal Die Welt, Deniz Yücel, emprisonné en Turquie depuis fin février, une des nombreuses sources de tensions entre les deux pays. Le mois des jeunes musulmans du Ramadan commence samedi en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, ont annoncé jeudi soir les autorités religieuses des deux pays. Le Ramadan, mois le plus sacré du calendrier musulman, est une occasion pour les musulmans d'être proches des nécessités en se privant de nourriture et d'eau. Tout fidèle qui observe le jeûne est censé ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil. L'Irak enquête sur des informations de presse faisant état de faits de torture, d'exécutions sommaires et de viols par des forces spéciales lors de la bataille pour reprendre Mossoul, le groupe État islamique, a indiqué le ministère de l'Intérieur. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel a publié cette semaine un reportage dans lequel un photographe irakien affirme cela. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
De la lutte contre le cancer, de l'électricité nucléaire en conformité avec les normes et conventions internationales. Et pour y arriver, le gouvernement a adopté hier un projet de loi portant sûreté, sécurité et utilisation pacifique de l'énergie atomique. Djibouti envoie de gérer 95% des importations de l'Éthiopie. Le port multifonction de Doralé, officiellement lancé, constitue une portée d'entrée vers l'une des régions à plus forte croissance du monde. Il va relier l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Financé en grande partie par la Chine pour un budget de 590 millions de dollars, ce port accueillera 30 000 navires chaque année. Djibouti abrite également des bases navales américaines, française et chinoise. L'économie ougandaise devrait atteindre 6 à 6,5% à l'horizon 2020 ou 2021. Le Fonds monétaire international mise sur l'exploitation des champs pétroliers, les vastes chantiers d'infrastructures, dont les centrales hydroélectriques, des autoroutes, un pipeline, un vaste réseau de chemins de fer et une raffinerie. En revanche, Kampala devrait connaître un ralentissement des exportations liées à l'instabilité chronique en RDC, Somalie, Burundi et surtout au Sud-Soudan.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler du sport. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Après des débuts en fanfare contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a chuté contre les États-Unis ce matin. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire après la demi-heure de jeu. Les États-Unis s'emparent de la tête du groupe F avec 4 points. Les Sénégalais auront l'occasion de se ressaisir contre l'Équateur dimanche, tandis que les États-Unis tâcheront de confirmer contre les Saoudiens. Demain, la Guinée doit impérativement l'emporter face à l'Argentine pour espérer conserver un maigre espoir de qualification.
Grand remue-ménage dans la sélection ghanéenne.
Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a convoqué 30 joueurs pour les rencontres du mois de juin. Pour sa première liste depuis son retour sur le banc des Black Stars, le technicien ghanéen a écarté pas moins de 10 joueurs retenus pour la CAN 2017, notamment Badou, Daouda, Jima, Yadom, Tété ou encore Tekpété. Il ne figure pas dans la liste des 30 joueurs retenus pour les rencontres du mois prochain, le 11 juin face à l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2019, puis en amical face au Mexique le 28 juin et aux États-Unis le 1er juillet.
Luis Suarez, incertain avec l'Uruguay.
L'attaquant uruguayen blessé à l'entraînement ce jeudi avec son club du FC Barcelone devrait manquer les rendez-vous amicaux de l'Uruguay contre l'Irlande et l'Italie début juin. L'attaquant déjà privé de la finale de la Coupe du Roi samedi face à Alaves. À cause d'une suspension, il sera éloigné des terrains pendant 15 jours.
Le Portugal en route pour la Coupe de la Confédération.
Le Portugal emmènera pratiquement tous ses champions d'Europe 2016 à la Coupe des Confédérations qui commence le 17 juin. Elle sera organisée en Russie. Le buteur lillois Eder, auteur d'un but victorieux face à la France en finale de l'Euro 2016, a été écarté, payant sa saison en demi-teinte du côté du LOSC. L'attaquant du FC Porto, André Silva, lui a été préféré.
On termine par la NBA, Cleveland aux portes de la finale.
Oui, les Cavaliers de Cleveland, double tenant du titre, ne sont désormais qu'à une victoire d'une troisième finale d'affilée en NBA. Ils mènent 3-1 dans leur série contre Boston et le cinquième match, c'est ce soir à Boston. On suivra ça évidemment demain matin.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par une célébration. La journée de l'Afrique est en effet célébrée aujourd'hui pour marquer la naissance de l'Organisation de l'Union africaine le 25 mai 1963. Plusieurs activités sont organisées sur le continent pour marquer l'événement. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a dans son message rappelé la nécessité de lutter contre le chômage des jeunes. En effet, l'Afrique est le continent avec la population la plus jeune. Le jeune activiste panafricaniste Guy Marius Sagno, coordonnateur de la coalition Non aux APE, est joint à Dakar par Abdourahmane Dia.
Jamais l'Afrique n'a été aussi loin des objectifs des pères fondateurs de l'OUA. En termes de pauvreté, en termes de désespoir de ses populations et particulièrement de sa jeunesse, en termes de perte de souveraineté économique notamment, en termes aussi de menaces auxquelles elle doit faire face.
On est donc loin de l'intégration politique, économique et même des peuples. Quel message lancez-vous aux dirigeants africains actuels?
Je fais partie de celles et ceux en Afrique estiment que ces dirigeants ont fait une option très claire. L'option de maintenir l'Afrique dans les liens de la dépendance, de la domination. Je pense que s'il y a un appel à lancer, c'est à l'endroit des forces vives africaines, des peuples africains, car c'est eux qui font l'histoire et c'est à eux de changer la donne en édifiant un rapport de force qui puisse justement imposer aux dirigeants africains de changer d'option.
L'Afrique est un continent jeune et beaucoup parmi ces jeunes prennent des risques en traversant la Méditerranée pour espérer avoir une vie meilleure. Quelle est la solution justement face à ce problème de l'immigration clandestine?
Ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas suffisamment scolarisés. Ils s'en vont parce que ce sont des filles et fils de paysans qui vivent les périodes de soudure. C'est l'État du Sénégal lui-même qui dit, par exemple, qu'il y a près de 900 000 Sénégalais cette année qui vivent une situation d'insécurité alimentaire. L'an passé, 500 000 Sénégalais. Il y a deux ans, 1 500 000 de Sénégalais. Comment veut-on que les filles et fils des paysans qui vivent cette situation-là restent dans leur pays? C'est ça la situation. C'est les conséquences des plans d'ajustement structurel. C'est les conséquences des politiques libérales imposées par les FMI et la Banque mondiale. Situation qui va empirer avec les accords de partenariat économique.
Si je vous comprends bien, il faut que l'Afrique développe des programmes qui ne sont pas forcément imposés par les institutions financières internationales.
La Chine. D'accord, qui est le dernier modèle de pays dit émergent, s'est protégé pendant un demi-siècle. Et quand elle s'est sentie suffisamment forte à affronter les multinationales et autres, elle s'est ouverte au monde. Pourquoi l'Afrique va-t-elle être la seule exception dans l'histoire de l'économie, à se développer en ouvrant son marché, en ne protégeant pas son agriculture, en livrant ses paysans aux multinationales américaines et de l'Union européenne?
L'activiste Guy Marius Sagno de la coalition Non aux APE, joint à Dakar.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Burundi, le président de la République a nommé une équipe chargée de réviser la Constitution. Certains articles comme la limitation des mandats présidentiels risquent de sauter. L'opposition burundaise affirme pour sa part que le parti CNDD-FDD veut la suppression des accords de paix d'Arusha conclus en 2000 en Tanzanie. Le point avec Christophe Nkurunziza à Burundi.
Pascal Nguenda Kourio est à la tête d'une commission de 15 personnes qui viennent d'horizons politiques divers, de différentes religions et ethnies. Il a la lourde mission de pouvoir présenter au mois de septembre ou avant la fin de cette année au président Bondet un rapport qui précise bien les articles à modifier dans la constitution actuelle, y compris l'article concernant les mandats présidentiels. Pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, cette idée de revisiter la constitution n'est pas nouvelle. Une commission technique a été mise sur pied dernièrement par le numéro 1 burundais, il est déjà à pied d'œuvre. Évariste Ndayishimiye.
Il y a des procédures pour amender la constitution. Il y a eu des idées qui sont venues de beaucoup de citoyens burundais qui demandent qu'il y ait un amendement de la constitution. C'est là même où on a commencé à parler de questions de mandat. Il y a une commission technique qui va étudier techniquement comment mettre en œuvre ces recommandations. Même dans la feuille de route de Kayanza, les partis politiques avaient prévu la révision de la constitution parce qu'il y a toujours des lacunes. Ce sont les membres de la commission technique qui étudient la gestion des institutions qui étaient en place.
Pour le parti de l'indépendance, il prônait Union pour le progrès national. La révision de la constitution burundaise ne peut pas intervenir au moment où les parties prenantes sont aujourd'hui en pourparlers. Tassien Sibomana.
Un parlement futur légal et légitime ne peut pas se targuer d'avoir la compétence de réviser la constitution. Et cet accord est pour nous un pacte social entre Burundais qu'il ne faut pas changer sur l'initiative de tout venant. La deuxième raison, c'est que l'article 299 est clair. Aucune procédure de révision n'est envisageable quand elle peut porter atteinte à la cohésion nationale, au principe de la démocratie.
Président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, estime que le parti présidentiel CNDD-FDD veut enterrer une fois pour toutes tous les accords de paix et de réconciliation d'Arusha. Zénon Nichaenzi.
Le Parena n'a jamais contesté le principe même de la révision de la constitution. Seulement, comme il y a un dialogue à Arusha, il faut que cette constitution soit changée dans l'esprit et les conclusions des accords d'Arusha. Si on met une commission avant les conclusions d'Arusha, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Parlons à présent d'un sujet qui agace les populations de la capitale camerounaise ces derniers temps, celui relatif à la collecte des ordures ménagères. Yaoundé, par endroit, présente des allures d'une ville poubelle. La société en charge de l'hygiène et de la salubrité accuse, entre autres, l'incivisme des populations. Reportage d'Emmanuel Jultap à Yaoundé.
À Yaoundé, les ordures ménagères côtoient déjà un peu trop les habitants de la capitale politique du Cameroun. Même les quartiers dits résidentiels n'échappent pas au décor des rues jonchées d'ordures ménagères des jours durant. Comme au lieu dit Tropicana, nous avons surpris le jeune Roger en train de déverser les ordures à même le sol, faute de bac à ordures.
Quitter chaque jour à la maison, peut-être venir à une décharge comme ça, et ça accumule encore plus. Nous ne sommes pas censés faire ça, parce que comme on voit dans les pays extérieurs, par exemple en Europe, les services d'hygiène là-bas, c'est chaque matin, très tôt et très tard dans la nuit. On n'a pas à se déplacer pour toujours les vider.
Et comme le Cameroun n'est pas l'Europe, c'est parfois une initiative personnelle de ramassage des ordures qui vient supplier la société en charge de l'hygiène et de salubrité à Yaoundé. Stéphane essaye tant bien que mal de le faire dans son quartier depuis le mois de février.
Et chaque fois, on a appelé le chef de bloc de Isakam, il me jongle. Et si je n'enlève pas, comme vous me voyez avec l'appel là, c'est qu'il n'y a même pas le passage sur ici.
Au marché central de Yaoundé, où nous rencontrons un commerçant, l'évocation du ramassage des ordures ménagères le fait sortir de ses gonds.
Je suis un habitant de Mimoumandon, Bosco, mais dans mon quartier, c'est grave. Les ordures ont traîné presque 3 semaines. On n'arrivait même plus à marcher. C'était tellement grave. Il faut que vraiment le gouvernement nous aide avec Isaac, sinon les gens vont beaucoup tomber malades au quartier.
Accusé, la société Isakam se défend. 3 raisons sont évoquées pour expliquer l'image d'une capitale poubelle depuis quelque temps. Pascal Nga, de la cellule de communication.
S'il y a l'incivisme des populations, on met les bacs, les gens volent les coffres verts en plastique, ceux qui sont métalliques, on les vandalise, les gens font de la ferraille avec. Il y a les embouteillages et jusqu'à présent, on n'avait pas de centre de transfert. Seulement, le délégué du gouvernement nous a donné un centre de transfert au niveau du marché Mokolo et au niveau du stade Mendon. Et c'est ça qui nous permet de décanter un peu la situation actuellement.
En coulisses, le renouvellement du contrat de la société Isakam se discute. D'ici fin juin, Le gouvernement va se prononcer si oui ou non cette société restera partenaire de l'État en matière d'hygiène et de salubrité au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Quelques 23 millions d'Américains perdront leur couverture médicale sur 10 ans sous le projet de réforme de l'assurance maladie approuvé le 4 mai par la majorité républicaine de la Chambre des représentants ici aux États-Unis. C'est ce qui ressort des estimations du Bureau du budget du Congrès. Selon la même source, cette mesure qui remplacera l'assurance maladie du président Obama permettra de réduire les impôts d'environ 1 000 milliards sur 10 ans. Essentiellement en faveur des ménages à revenus élevés. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Leonard Wachenkong, professeur des sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton dans le New Jersey.
Les républicains sont très remontés, ont été toujours très remontés contre le Obamacare et puis veulent le remplacer par tous les moyens. Malgré l'opposition de la base, vous vous rappelez, après les élections, certains des congressmen ont fait des meetings, puis les gens se sont opposés, les gens se sont manifestés, et puis malgré ça, ils ont continué, et puis voilà, c'est la situation où nous sommes actuellement.
Les républicains assurent que leur réforme va ralentir l'augmentation des coûts de l'assurance maladie qu'on observe actuellement sous la réforme du président Obama.
Le prix diminue, mais le nombre de personnes sans assurance augmente de 23 millions. Bon, je pense quand même qu'il y a quelque chose à gagner, quelque chose à perdre. En dehors de ça, il parle également du fait que le nouveau plan réduit le déficit. Mais en mettant ensemble la réduction du déficit et le fait que le coût est légèrement plus bas par rapport au nombre de personnes qui risquent leur vie à cause de cela, je pense que le choix devrait s'imposer, quoi.
Il est également question d'une réduction de 1 000 milliards de dollars d'impôts pour les ménages à haut revenu.
C'est ça. Et ce qui fait que, en fait, ceux qui ont voté pour Trump, c'est ceux qui vont perdre le plus. Et comment est-ce qu'on peut réduire le déficit budgétaire en coupant les taxes aux plus riches, qui n'en ont même pas besoin. C'est là aussi l'entêtement idéologique. Il y a un groupe de gens qui reste derrière Trump. Ils se sont présentés au début comme des populistes, comme des gens qui ont à cœur les intérêts des classes moyennes, des classes, basses. Je suis persuadé que, disons, cette diminution d'impôts, ce n'est pas quelque chose qui pourra lui permettre de gagner en popularité, quoi. Donc parmi ces gens-là.
Et pourtant, les partisans de Donald Trump, y compris les plus pauvres, continuent de le soutenir fermement.
C'est quand même très tôt pour ces gens-là de changer d'avis. Et puis, ils ont été mis dans un état d'esprit de ne pas croire ce que les médias, ce que l'opposition en train de dire sur Trump. Il est aussi important de souligner qu'il y a un côté du l'électorat aux États-Unis qui est dans un certain sens ethnique, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont tellement bornés par rapport à leur soutien à Trump et leur soutien au Parti républicain qu'ils ne veulent rien écouter, même si cela va contre leurs intérêts. Et lorsqu'ils veulent changer de position, on leur lance des choses comme le mariage gay ou des choses tout à fait religieuses ou idéologiques, quoi. Donc, pour pouvoir les maintenir, en fait, dans le camp républicain et le camp de Trump.
Leonard Wachenkong, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton, dans le New Jersey.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, dans l'universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph. Zoukber Al-Taïb était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.